Professeur Bernard, bonjour.
Bonjour.
Professeur Bernard, aujourd'hui nous allons parler d'hépatite virale. Professeur, quels sont les virus qui sont responsables de cette pathologie ?
Alors, ils sont nombreux, mais en matière donc d'hépatite virale, il y en a deux qui posent véritablement des problèmes à la fois diagnostiques, thérapeutiques, surtout des problèmes de santé publique de par leur fréquence. Ce sont les virus B et le virus C. Alors, le virus A, on en dit un mot, pour ne plus en parler après, c'est un virus responsable d'hépatite qui sont très fréquentes, qui sont constamment bénignes, qui intéressent le jeune enfant. Et on peut estimer que pratiquement la moitié de la population française a été à un moment donné, surtout dans l'enfance et l'adolescence, en contact avec le virus de l'hépatite A et n'en garde aucune séquelle. Il n'en est pas de même avec les virus des hépatites B et des hépatites C. Le virus de l'hépatite B est un virus à ADN qui est fréquent au niveau mondial. Donc on estime qu'il y a à peu près 3 milliards de personnes au niveau mondial qui sont contaminées par le virus de l'hépatite B. Et en France, il y a à peu près 300 000 porteurs de ce virus, ce qui est relativement considérable et ce qui pose le problème d'une prise en charge et éventuellement d'un dépistage. Il faut savoir que cette maladie est majoritairement une maladie bénigne. Elle peut avoir malheureusement des complications. Le point important, c'est qu'elle est accessible à une démarche préventive par l'intermédiaire d'une vaccination.
Professeur Bernard, quels sont les modes de transmission de ce virus B ?
Alors, il faut qu'il y ait un contact sanguin. Au niveau mondial, la source de contamination la plus importante, c'est la contamination fœto-maternelle au moment de l'accouchement. Ça, c'est véritablement un problème de santé publique dans les pays émergents et ça va entraîner, bien sûr, une contamination dans la petite enfance qui va ensuite être préjudiciable à la vie adulte. Dans les pays industrialisés, la contamination s'effectue en général beaucoup plus tard par voie sanguine. Dans des populations à risque encore majoritairement, qui sont la plupart du temps des sujets toxicomanes qui vont échanger malheureusement des seringues, il ne faut pas sous-estimer l'incidence de la contamination sexuelle, surtout en cas de partenaires multiples. Et c'est aujourd'hui, bien sûr, à côté de la contamination chez les sujets toxicomanes, probablement la principale source de diffusion de ce virus. En effet, le risque de contamination par transfusion sanguine est pratiquement nul à l'heure actuelle, étant donné les précautions qui sont prises et le dépistage surtout, qui est absolument obligatoire pour les donneurs de sang.
Professeur Bernard, qu'en est-il du virus C ?
Le virus C est un virus à ARN. Il a à peu près le même, je dirais, mode de transmission que pour le virus B. Néanmoins, l'infectiosité du virus est moindre. Donc le risque de contamination sexuelle est probablement bien moindre que pour le virus B. Par contre, il est à peu près identique pour la transmission dans les populations à risque et notamment les sujets toxicomanes. Comme pour le virus B, le mode de transmission, je dirais le risque de transmission lors de transfusion est pratiquement nul à l'heure actuelle, étant donné la mise à disposition maintenant depuis plusieurs années de tests de dépistage efficients qui sont étendus donc aux populations de donneurs de sang.
Professeur Bernard, quelle est la fréquence des hépatites virales en France ?
Alors, pour l'hépatite B, je rappelais tout à l'heure qu'il y avait à peu près en France 300 000 porteurs du virus. Pour l'hépatite C, on estime aujourd'hui qu'il y a entre 400 et 500 000 porteurs du virus C, dont beaucoup ignorent qu'ils sont porteurs de cette maladie.
Professeur Bernard, quand cette maladie donc se déclare, quels sont les symptômes apparents de cette pathologie ?
Alors, il existe de grandes différences entre l'histoire naturelle de l'hépatite B et de l'hépatite C. Ces deux maladies peuvent être totalement asymptomatique et ce sera quelque chose qu'on retrouvera beaucoup plus fréquemment pour l'hépatite C que pour l'hépatite B. Dans les deux cas, à l'inverse, on peut avoir les signes habituels de l'hépatite virale, c'est-à-dire une asthénie très importante, l'apparition rapide d'un ictère qui va persister quelquefois pendant plusieurs semaines, accompagné de troubles digestifs, nausées et vomissements, et bien souvent d'un amaigrissement. L'examen dans les deux cas va révéler une augmentation de volume du foie qui sera confirmée par une échographie hépatique. Le signe le plus important demeure encore aujourd'hui biologiquement l'élévation des enzymes hépatiques, les transaminases, qui peut être une élévation très importante, au-delà de 3000. En général, plus l'élévation est importante, plus la régression de l'hépatite est rapide. On peut être confronté, malheureusement, à des évolutions plus prolongées. Quand ces évolutions vont dépasser 6 mois, on parlera d'hépatite chronique. Une fois sur 4, ce passage à la chronicité sera observé pour l'hépatite B, alors que 3 fois sur 4, ce passage à la chronicité sera observé pour l'hépatite C, et c'est ce qui en fait toute la gravité. Il existe malheureusement des formes rapidement mortelles qu'on appelle formes fulminantes et qui sont le fait des hépatites B, mais qui ne vont concerner que fort heureusement moins de 1% des patients. On peut estimer aujourd'hui que pour l'hépatite B et l'hépatite C, un patient sur 4 ou un patient sur 5 vont finir par avoir des complications tardives de l'évolution chronique de leur maladie. Et c'est bien l'installation d'une cirrhose qui représente la complication la plus grave de l'évolution d'une hépatite chronique d'origine B ou d'origine C. C'est ce qui fait toute l'importance du dépistage précoce de ces deux hépatites pour pouvoir, autant que faire se peut, mettre en œuvre un traitement curatif qui permette justement d'éviter les complications à long terme.
À l'heure actuelle, professeur Bernard, quels sont les traitements qui sont à notre disposition ?
Ces traitements sont des antiviraux qui vont être assez différents pour la prise en charge de l'hépatite B et de l'hépatite C. Cela tient tout simplement à la nature du virus, qui n'est pas exactement la même, je vous rappelle, un virus à ADN pour l'hépatite B, un virus à ARN pour l'hépatite C. Un produit fait référence et peut être utilisé dans les deux configurations. Il s'agit d'un immunomodulateur, c'est l'interféron, qui peut, là encore, donner des résultats intéressants au cours du traitement de ces deux hépatites. C'est ce traitement par interféron qui, maintenant, est réalisé grâce à des molécules qui ont un effet retard, ce qui, pour le patient, n'implique qu'une injection par semaine, mais pour un traitement qui va, en général, de 6 à 12 mois, est un traitement qui va donner des résultats intéressants en termes de contrôle de la replication virale. En effet, il faut avoir la confirmation de cette replication virale une fois qu'on a suspecté le diagnostic par le dosage des transaminases. On effectue donc ce que l'on appelle la recherche du DNA viral circulant pour l'hépatite B, de l'ARN viral circulant pour l'hépatite C, et on obtient donc une quantification de la charge virale. En fonction de cette charge virale, on prend la décision donc de débuter un traitement antiviral que l'on va contrôler en général tous les 3 mois pour vérifier que le traitement est efficace. Si l'interféron est prescrit seul, c'est dans le cas de l'hépatite B et le traitement en général n'est jamais inférieur à 6 mois. En matière d'hépatite C, le traitement par interféron est constamment associé à un analogue des nucléosides qui est la ribavirine, qui est un médicament qui est administré sous forme de comprimé à la dose de 800 à 1200 mg par 24 heures en association avec l'interféron retard. Là encore, ce traitement s'effectue à la carte, et particulièrement pour l'hépatite C, c'est bien en fonction du génotype viral que l'on calculera à la fois les doses et surtout la durée du traitement, qui n'est jamais inférieure à 6 mois. Les génotypes 1 sont des génotypes mauvais répondeurs, et ces patients, qui représentent à peu près 25% des patients, seront traités pendant 1 an. On effectue à l'issue du traitement, bien sûr, un contrôle de la virémie pour vérifier que le traitement a été efficace et surtout, on réitère ce dosage de virémie 3 mois et 6 mois après la fin du traitement pour être certain que ce traitement a été efficace. Donc, l'interféron reste aujourd'hui le traitement de base associé à la ribavirine pour l'hépatite C. Il faut souligner que, s'agissant de l'hépatite B, toute une gamme donc de médicaments antiviraux, qui sont des analogues des nucléosides, ont été récemment commercialisés et tendent aujourd'hui à remplacer le traitement par interféron. En effet, ce traitement par interféron n'est pas efficace dans tous les cas. Il est surtout responsable d'un certain nombre d'effets secondaires qui sont quelquefois extrêmement pénalisants pour les patients et peuvent, dans une certaine mesure, aboutir à l'arrêt, quelquefois définitif, du traitement. Je veux parler des troubles du comportement et de l'humeur, et donc des sujets qui ont des antécédents psychiatriques doivent être particulièrement surveillés après la mise en place de ces traitements. Il y a d'autres inconvénients, quelquefois plus ennuyeux, au niveau de la fonction rénale, au niveau de la thyroïde, et tout ceci nécessite une surveillance extrêmement étroite de ces traitements. Alors, les analogues des nucléosides qui sont utilisés pour l'hépatite B ont finalement peu d'inconvénients et donc sont de maniement beaucoup plus faciles. Ils ont un inconvénient, c'est qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui qu'ils n'ont qu'un effet suspensif, c'est-à-dire qu'à l'arrêt du traitement, le risque de voir reprendre une replication virale semble supérieur à 50%. Ils sont bien sûr très efficaces pendant toute la durée du traitement. Il semblerait que ces traitements doivent être donc poursuivis pendant une durée très prolongée. On manque encore de recul pour savoir combien de temps ces traitements doivent être prescrits. Le deuxième inconvénient, qui n'est pas encore totalement quantifié, c'est le risque, singulièrement pour le virus B, de voir sélectionner des mutants du virus et donc à terme une résistance pour un malade donné. Et donc c'est pour cela qu'on dispose plus que d'un seul médicament, d'un panel de traitements qui, dans l'avenir, pourront faire l'objet d'associations, comme c'est déjà le cas pour la prise en charge des infections par le virus du sida.
Professeur Bernard, qu'en est-il de la vaccination actuellement? Est-ce qu'elle est sans risque? Est-ce qu'il y a des complications? Est-ce que le risque, ce que l'on appelle le risque-bénéfice, peut être plus en faveur de la vaccination ou le contraire?
Il est vrai qu'on dispose d'un vaccin efficace contre l'hépatite B depuis le début des années 80. En 1992, donc au niveau national, cette vaccination est entrée officiellement dans le programme de vaccination de la population, notamment chez le jeune enfant, donc le nourrisson, dès l'âge de 1 à 2 mois, et en rattrapage chez les adolescents en période prépubère, finalement avant les premiers rapports sexuels, quand on connaît l'histoire naturelle de l'hépatite B. Alors cette vaccination s'est bien déroulée, s'est bien développée, puisque au début des années 90, près de la moitié de la population française s'est trouvée protégée du virus B grâce à cette vaccination. Et dans notre pratique, nous avons vu très très clairement reculer l'incidence de cette maladie en France, ce qui était plutôt une bonne nouvelle, parce que je vous rappelle que c'est une maladie quand même susceptible de provoquer des complications graves, cirrhose et éventuellement à terme cancer du foie. En 2004, à la suite donc de la publication dans la littérature internationale de certains cas de sclérose en plaques qui étaient survenus chez des patients ayant subi une vaccination contre l'hépatite B, la communauté scientifique et les pouvoirs publics se sont posés la question de l'innocuité de cette vaccination et au nom du principe de précaution, le ministre de la Santé, qui était alors en fonction, a décidé de suspendre la campagne de vaccination, singulièrement chez les adolescents, dans le doute. Alors, depuis cette date, les données de la littérature n'ont pas confirmé de relation de cause à effet directe entre la vaccination et ces affections démyélinisantes du système nerveux central, mais le doute subsistant, et surtout des arrêtés des tribunaux ayant été rendus vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques qui donc commercialisaient ce vaccin, le doute a subsisté dans la population auprès des pouvoirs publics, et ce qui est peut-être plus embêtant, auprès des médecins généralistes et pédiatres qui vaccinaient leurs patients. En effet, l'effet pervers de cette décision, qui est peut-être légitime, c'est que on s'est bien sûr arrêté de vacciner les adolescents, mais dans le même temps, là encore, par crainte de voir survenir d'éventuels effets secondaires, beaucoup de médecins généralistes et de pédiatres se sont arrêtés de vacciner les nourrissons, alors qu'aucune préconisation n'a été faite dans ce sens. Alors, il faut aujourd'hui, je pense, rassurer la population, en effet, où aucun lien de causalité n'a été scientifiquement démontré sur une grande échelle. Il n'y a absolument aucun risque aujourd'hui à vacciner les nourrissons avec un programme de vaccination de 2 mois à 1 an, qui est le programme classique de vaccination en association avec les autres vaccins contre les petites maladies de l'enfance. Et donc, très très clairement, aujourd'hui, on préconise bien sûr cette vaccination chez le petit enfant qui demeure absolument sans risque. Ce n'est qu'à ce prix qu'on arrivera à prévenir cette affection grave, potentiellement mortelle, et retrouver d'ici quelques années une couverture vaccinale que l'on avait atteint au début des années 90 et qui est la seule susceptible sur le long terme de voir disparaître cette maladie grave.
Professeur Bernard, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.